Bonjour, c'est Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are, 'cause I wear a silly ring. Meilleur ouvrier de France, quatrième fleuriste mondial lors d'un concours dont nous allons vous parler. Le directeur général de Bella Flora est là en face de moi. Il a 9 magasins indépendants. Il est artisan fleuriste, il y tient absolument à ce terme de artisan fleuriste. Et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Steven Tougar.
Bonjour Clarisse.
Bonjour Steven. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Alors, vous êtes en face de moi en tant que artisan fleuriste et vous tenez à ce terme-là.
Oui, en effet, c'est un terme auquel je tiens tout particulièrement puisque nous devons, en tant qu'artisans, défendre un savoir-faire qui est, pour le métier de fleuriste, qui est typiquement français. Et donc, je tiens absolument à cette dénomination puisqu'elle est gage de qualité, en fait, d'un savoir-faire.
Pourquoi vous dites typiquement français ? Il y a des fleuristes à l'étranger ?
Oui, complètement, il y a des fleuristes à l'étranger, mais il faut savoir que l'art floral est principalement venu au XVIIe en France, et donc qui est parti d'un savoir-faire très français, avec l'apparition des nouveaux jardins, avec le nôtre, avec la mise en scène de certains vases au cours du XVIIe, donc c'est relativement français. On peut dire que l'art floral est parti d'un savoir-vivre français.
Donc les bouquets, les compositions étaient faits alors dans les châteaux, bien sûr, à l'époque,
bien sûr, oui.
Alors qu'avant, il n'y avait pas de végétaux à l'intérieur des maisons.
Très peu, très très peu. Donc les premiers bouquets sont apparus, en effet, aux alentours du XVIIe.
Bon, mais moi, vous savez, alors je ne veux pas vous contredire, hein, parce que c'est vous le spécialiste, mais il me semblait que le Japon, par exemple, avec ses ikebana, ses
oui.
compositions florales,
oui.
si particulières, si épurées, étaient bien plus anciennes que ça.
Oui, bien sûr, mais là, ça, c'était vraiment... l'ikebana est vraiment une philosophie, en fait. Hein. C'est vraiment un art philosophique qui correspond à des moments de vie, donc c'est vraiment particulier au Japon, ça n'a rien à voir dans un esprit décoratif comme l'art floral français en fait, qui est là en complémentarité d'une décoration générale en fait. Rien à voir avec l'ikebana qui lui est plutôt un art philosophique en fait, une démonstration philosophique de vie.
Vous vous êtes intéressé à l'ikebana ?
Un peu, mais c'est pas assez décoratif pour moi. En fait, moi j'aime l'art floral qui vient être en complémentarité d'une scénographie différente avec des objets en complémentarité en fait.
Effectivement, l'ikebana, c'est plus des végétaux qui vont symboliser le lien entre le ciel et la terre.
Oui, tout à fait, avec les différents éléments, en fait.
C'est c'est ça. Qui vont avoir un reflet sur l'eau aussi, puisque les vases sont très grands, comme des plats, et qu'il va y avoir un pic-fleur particulier
voilà,
dans lequel les végétaux se...
Tout à fait. Donc, il n'y a pas forcément de liberté à la réalisation, alors que l'art français, l'art floral français, comme on peut le rencontrer chez les différents artisans fleuristes, lui laisse la liberté à l'artisan, tandis que l'ikebana ne laisse pas la place.
Alors écoutez, moi je vais vous proposer un challenge, Steven Tougar.
Oui.
On va écouter un premier morceau de musique, et pendant ce premier morceau de musique, vous allez réfléchir à une composition que vous feriez ici pour mettre dans le studio. Là, imaginons que j'ai une sellette ici.
Oui.
D'accord, dans cet
oui.
angle-là. Je vous laisse toute liberté de faire ce que vous voulez, ce qui serait le plus adapté à
D'accord.
ce studio.
D'accord.
Et vous allez ensuite nous la décrire.
Très bien.
Et en attendant, nous écoutons notre premier morceau de musique, qui est tout en douceur, qui est de...
Abel Korzeniowski, un compositeur polonais que j'aime beaucoup.
Et qui s'appelle « Just Like That ».
C'est Steven Tougar qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Steven Tougar est artisan fleuriste. Il va d'ailleurs nous décrire dans quelques instants la composition qu'il a faite virtuellement pour notre studio. Et en attendant, il va nous expliquer pourquoi il a choisi cet extrait du film Single Man avec Tom Ford.
Eh bien, j'ai choisi cet extrait parce que c'est un extrait dans lequel je me retrouve bien, hein, c'est-à-dire qu'il laisse la place à une liberté de créativité et de douceur, et il est crescendo, c'est-à-dire qu'on peut partir d'idées très douces et arriver à quelque chose de relativement explosif même, donc... C'est quelque chose, c'est un morceau que j'écoute très régulièrement lorsque j'ai besoin de me plonger dans cette bulle de créativité qui fait partie au quotidien de mon métier.
Mais dites-moi Steven, comment est-ce que vous faites pour diriger 9 magasins indépendants, hein, c'est pas une chaîne, et pour créer encore, pour trouver du temps pour créer ? Vous avez 30 personnes sous vos ordres ?
Eh bien justement, j'ai besoin de ces moments où je peux me plonger dans mon univers.
Ah, vous ressourcez.
Oui, complètement. Alors ça peut être en effet par la musique, mais je suis assez gourmand de l'art en général, donc ça peut être devant une expo, ça peut être dans mes moments de détente, ça peut être dans l'architecture, ça peut être dans énormément de choses. De toute façon, dès l'instant que c'est quelque chose qui peut susciter en moi une émotion, je suis assez gourmand de tous ces petits moments volés qui me permettent de me ressourcer et d'aller de l'avant au quotidien et
de me remettre
en question à chaque fois.
Avant de nous envoler dans les images que vous nous avez apportées en Italie, au Maroc, etc., j'aimerais que vous décriviez donc la composition que vous proposeriez dans ce studio. Est-ce que cet angle-là vous convient ? Est-ce que vous préférez qu'on le mette ailleurs ?
Bien, écoutez, moi, j'aurais plutôt tendance à mettre un bouquet de fleurs, tel qu'il soit, mais au centre d'une pièce, pour que ce soit un élément à part entière. Il ne faut pas oublier que la matière vit, donc c'est une matière vivante qui a besoin d'être, d'espace, qui a besoin d'oxygène, qui a besoin de liberté pour pouvoir exprimer toute sa force. Donc j'aurais plutôt tendance à mettre un bouquet au centre du regard plutôt que dans un angle.
Oui, alors je vous comprends, mais là, dans le studio... si on le met sur la table, ça va nous gêner. Vous avez vu tous les éléments qu'on a sur cette table, tout ce que vous avez choisi, les photos, les objets, les senteurs, donc on n'aura pas assez de place. Et c'est pour cette raison-là que je vous proposais ce petit angle, parce que, vous voyez, dès qu'on ouvre la porte, en fait, on est juste en face,
oui,
et ça pourrait être très
effet.
Joli.
Mais là, tout de suite, sur notre gauche, éventuellement, on aurait pu mettre quelque chose sur la même sellette que vous aviez choisi.
C'est vrai.
Mais le mettre plutôt sur la gauche, et en plus, on pourrait pleinement en profiter, on n'aurait juste qu'à... à tourner un tout petit peu du regard et pouvoir en
c'est
profiter.
Vrai. Et vous choisiriez quoi comme
un joli bouquet de tulipes françaises du Midi, de la région du Var, qui est une très belle tulipe qui fait à peu près entre 80 et 80 cm et 1 mètre, dans des teintes de blanc et vert, c'est ce qu'il y a de plus joli.
Waouh. Ah oui,
définition simple.
Ça fait rêver.
Voilà.
Comment est-ce qu'on sait qu'on achète des tulipes françaises et pas des tulipes hollandaises ?
À la qualité, à la longueur, généralement, à la grosseur.
Au prix,
au prix malheureusement, bien sûr, au prix, parce que c'est un gage de qualité, mais c'est malheureusement aussi aujourd'hui quelque chose qui nous fait défaut en tant que distributeur. J'aimerais, moi, au quotidien, distribuer beaucoup plus de produits français, mais,
prix
pour une
sont
question de coût, voilà, c'est très difficile pour moi de diffuser, alors que la consommation, le système de consommation fait qu'on est toujours plus ou moins à la recherche de prix le plus bas tout au long de l'année, et c'est compliqué pour moi.
Vous parlez de tulipes, comment est-ce qu'on fait pour les maintenir le plus longtemps possible chez soi ? Alors, outre le fait qu'il faut les recouper chaque jour ou changer l'eau, je ne sais pas exactement s'il faut changer l'eau ou compléter l'eau du vase, mais j'ai entendu aussi qu'il fallait les piquer sous la tête avec une épingle.
Alors, ça, on fait, c'est un peu une méthode de grand-mère, ça, mais... c'est
excusez-moi, je vous remercie, c'est très gentil.
Non, je vous en prie, mais c'était pas dans ce sens-là, mais c'est souvent ce qu'on faisait sur une tulipe qui a très soif, en fait.
D'accord.
On pique la tige à l'extrémité la plus haute pour qu'on puisse faire un effet d'absorption d'eau beaucoup plus rapide. Mais il suffit, une tulipe, il suffit tout simplement de bien la couper au couteau, une coupe bien nette, bien faite, et de la plonger aussitôt dans l'eau, de mettre quelques centimètres, un ou deux centimètres d'eau dans le fond du vase suffisent, pas plus.
D'accord, non, sinon ça va pourrir ?
Non, pas du tout. Disons que la tulipe, comme toutes les fleurs à bulbe, continue de pousser, même lorsqu'elles ont été cueillies. Donc elles continuent de grandir dans le vase, et plus vous leur mettez d'eau, en fin de compte, plus les tulipes vont devenir dolentes très vite, et vont prendre des formes, alors certes, qui peuvent être très jolies lorsqu'on veut faire une jolie photo ou éventuellement les peindre, mais quand on veut conserver un esthétique relativement strict, il ne faut pas leur mettre trop d'eau.
C'est ce que faisaient les peintres lorsqu'ils représentaient une vanité et un bouquet de tulipes alanguies, justement, ou dolentes, comme vous le disiez, pour signifier que la vie passe au bout d'un moment. Et
exactement,
que...
exactement. C'est ce qui fait la richesse de notre métier, c'est le côté éphémère, justement. De pouvoir arriver à retranscrire des émotions et des sensations avec quelque chose de vivant et qui vont venir et à un moment repartir.
Des émotions, vous devez en avoir lorsque, par exemple, vous avez, une jeune mariée qui vient et qui vous demande de faire son bouquet. Comment est-ce que vous faites pour la conseiller ? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement plaisantes à faire pour vous ?
Bien sûr, énormément de choses sont plaisantes dans mon métier. Heureusement d'ailleurs. C'est un métier qui est très difficile, donc il faut se contenter de tous ces moments qui sont agréables justement dans notre métier. La satisfaction du client, la réponse que nous allons apporter au client face à une demande particulière, à une recherche de demande particulière. Donc obligatoirement, oui, il y a énormément de choses qui sont encore agréables dans notre métier. Et de pouvoir arriver à retranscrire ce que le client va nous dire avec plus ou moins de clarté, c'est à nous d'arriver à retranscrire de par nos mains une émotion recherchée, une sensibilité recherchée pour tel ou tel événement.
Quelle est la composition que vous préférez faire ?
Les choses les plus simples sont les plus belles.
C'est-à-dire ? Un exemple qui nous mette des fleurs dans les yeux.
Un joli bouquet de pivoine constitué uniquement d'une belle brassée de pivoine à la saison des pivoines aussi. Donc c'est-à-dire mai-juin, qui est la meilleure période pour profiter de cette magnifique fleur. Donc un joli bouquet de pivoine blanche qui va sentir un peu une odeur un peu poivrée avec un beau feuillage autour, et ça me va très bien. La simplicité est la plus belle des choses dans notre métier.
Stephen Tougar, vous avez choisi, comme tous les invités de cette émission, des objets, des photos, des senteurs et des musiques. Et outre le couteau que vous avez apporté, que nous avons évoqué tout à l'heure, ce fameux couteau de fleuriste, qui a encore d'ailleurs les petites traces des végétaux que vous avez coupés avec, vous avez choisi... deux photos que j'aimerais associer parce qu'elles sont dans le même état d'esprit, même si ce sont des lieux tout à fait différents. Nous sommes à Rome d'un côté et à Marrakech de l'autre.
Oui.
Alors, donc ce sont des vues générales et du jardin Marrakech et de la ville de Rome. Pourquoi avoir choisi ces images-là ?
Eh bien, parce que ces deux endroits totalement différents m'inspirent, me permettent de me ressourcer. Rome, parce que c'est le berceau de l'art, je dirais, tout en majuscule. C'est le berceau où vous pouvez, à chaque coin de rue, découvrir des émotions, découvrir des objets, découvrir tout un tas de très belles choses qui peuvent venir vous envahir, vous transporter ailleurs, en fait. C'est mon refuge, c'est un de mes refuges.
C'est l'endroit où vous vous sentez bien, vous m'avez dit, un endroit de créativité, un endroit qui vous permet de vous ressourcer.
Oui, complètement. C'est un endroit dans lequel je me sens vraiment moi, détendu, propice, ouvert à la créativité, à cette énergie qui se dégage de cette ville, à cette inspiration qui se dégage de cette ville, de ces ruelles chargées d'histoire, d'art, d'émotions. C'est vraiment une ville qui pour moi, me nourrit.
Je partage complètement cette idée, effectivement, c'est un,
lieu
incroyablement magique.
Ouais, c'est magique, c'est magique.
Oui, d'arriver dans par une petite ruelle et d'arriver sur une place et d'être le menton qui pend tellement, c'est extraordinaire ce qu'on voit. Se retourner et de voir une petite statue dans une petite niche sur une façade et d'être complètement immergé dans la magie de Rome.
Complètement, oui. C'est une ville qui permet toutes ces émotions, se transporte dans d'une certaine manière, dans une autre dimension, avec ses odeurs, ses couleurs, ses chaleurs. Tout ça, c'est enivrant.
Une autre dimension, un autre lieu tout à fait enivrant, c'est le Jardin Majorelle. Vous avez choisi ça parce que vous appréciez énormément le travail du peintre Jacques Majorelle et le travail de son père, l'ébéniste Louis Majorelle.
Oui, complètement.
Et puis, bien sûr, il y a la sépulture de Yves Saint-Laurent.
Alors en effet, Majorelle, qui a de multiples significations pour moi, mais la principale, c'est évidemment Yves Saint-Laurent, qui est un personnage qui a beaucoup compté dans ma carrière, tout du moins le début de ma carrière, puisque j'ai eu cette opportunité et cette chance exceptionnelle de pouvoir travailler dans son propre univers, son univers personnel, à Deauville, au Château Gabriel, pour lequel j'ai eu l'occasion de faire à de multiples reprises des bouquets, des fleurissements de ces espaces personnels, et pour moi c'était un véritable honneur.
Et comment ça se passait, Steven Tougar, avec Yves Saint-Laurent? Quelles étaient les relations? Comment il s'adressait à vous? Est-ce que vous le voyez directement ou est-ce qu'il y avait des collaborateurs qui donnaient les instructions?
En effet, il y avait des collaborateurs, il avait des régisseurs qui géraient ses biens, et donc obligatoirement, nous passions pour certaines occasions par les régisseurs, mais il m'est arrivé de le rencontrer à plusieurs reprises, voire même de lui parler. Donc j'étais jeune fleuriste à cette époque, donc
impressionné
par ce grand monsieur qui visiblement était au quotidien plus impressionné par les autres. Donc c'était vraiment véritablement quelqu'un de très timide, donc mais là il était dans son univers, donc c'était particulier, et moi j'avais peine à croire qu'un jeune fleuriste de 20 ans pouvait répondre et satisfaire les demandes de ce grand monsieur. Donc évidemment, j'étais rempli de sensations et d'émotions à l'idée d'aller au Château Gabriel ou alors à la Datcha, qui était vraiment son dernier refuge.
Vous avez choisi cet ouvrage, en fait il y en a deux ici. On a été un petit peu plus large dans les choix parce que vous aviez énormément de choses à nous raconter, Steven Tougar. Ce premier livre-là, c'est le livre de Pierre Berger intitulé « Lettres à Yves ».
Oui, alors « Lettres à Yves », en fait c'est un recueil de lettres que Pierre Berger a écrit à M. Yves Saint-Laurent après son décès. C'est une communication virtuelle qu'il entretenait avec Yves Saint-Laurent, dans lequel il lui faisait part de tous ses souvenirs, sa nostalgie, ses émotions, ses amours, ses craintes, ses peurs, ses moments traversés, et c'est rempli d'émotions et de beauté, en fait. C'est un ouvrage qui est beau, qui vous transporte dans un amour qui a été fusionnel, passionnel, et qui obligatoirement ne peut que susciter une interrogation sur ce qu'on peut vivre dans les relations humaines aujourd'hui.
Les relations humaines, quelque chose qui est effectivement bien complexe.
Oui.
Est-ce que ce deuxième ouvrage, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, vous paraît traiter des relations humaines?
Alors, traiter, je ne sais pas.
Évoquer, en tout cas.
Oui, évoquer, très certainement. C'est un guide plus qu'un ouvrage, en fait.
C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Voilà. Parce que si on lit entre les lignes...
Oui, en effet, c'est un guide plus qu'un ouvrage pour moi et c'est quelque chose qui peut vite remettre une personne dans le doute, dans le droit chemin, et sur sa personnalité, sur sa façon de voir les choses, sur sa façon d'entretenir de relations avec autrui. Et pour moi, il m'est assez fréquent de vouloir relire certains passages du Petit Prince. C'est le temps que tu prends pour ta rose qui rend ta rose si belle.
Voilà, c'était ça que j'avais envie d'entendre, mais je ne savais pas encore quel passage vous alliez nous citer.
Voilà.
Stephen Tougar, nous allons écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi et ensuite découvrir cet objet qui est si précieux à vos yeux.
Oui.
C'est Stephen Tougar qui est notre invité aujourd'hui dans Portrait. Stephen Tougar est artisan fleuriste. Il a choisi les différents éléments qui sont habituels, vous le savez, vous qui nous écoutez dans cette émission. Là, nous venons d'écouter Maria Callas, Je veux vivre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait de Roméo et Juliette de Gounod?
Alors, j'ai choisi cet extrait parce que, d'une, j'adore Maria Callas. Et de deux, je trouve cette prouesse vocale d'une intensité si importante, si impressionnante que je me sens transporté à chaque fois que je l'entends, en fait.
C'est une émotion importante, une émotion aussi que le choix de cet objet-là. Alors, en fait, vous entendez ce petit bruit-là? Eh bien, c'est juste la chaîne qui relie cette montre de Gousset. Je vous la redonne parce que je l'avais dans les mains, Stephen. C'est la montre de votre grand-père. Elle vous a été offerte par qui?
Elle m'a été offerte par ma grand-mère et ma mère à une occasion très particulière. C'était à mon retour de Séoul, du championnat du monde.
Ah, vous avez entendu, elle a claqué, il l'a refermé dans ses doigts.
pour me féliciter ou pour me récompenser, je pense, de mon début de carrière, en fait. Donc je ne sais pas si c'était vraiment la signification sur le jour ou si c'était un témoignage, un relais, en fait, de cette passation d'objet familial.
Mm-mm. Vous connaissiez votre grand-père ?
Je l'ai connu, mais très peu.
Donc vous n'aviez pas une relation particulière, par contre ?
Alors j'ai de grands souvenirs avec lui, mais j'étais très jeune, donc ce sont des brefs de souvenirs, mais qui sont remplis d'émotions.
Et c'est du coup le lien, finalement, filial ?
Oui, tout à fait.
Qui est là, ce symbole dans votre
roman ? En effet, c'est ce lien qui est très important pour moi.
Vous avez choisi deux odeurs, deux senteurs plutôt. Tout d'abord la fleur d'oranger, alors ce sont des souvenirs de moments merveilleux.
Oui, en effet, la fleur d'oranger, qui est une odeur toute particulière, c'est une odeur qui pour moi est synonyme de détente, de bien-être, de tous ces moments dont je vous parlais, qui me permettent de me ressourcer. Donc la fleur d'oranger...
Et vous l'avez apporté en vrai, hein ? Je l'ai senti, hein, le petit flacon, il est juste là.
Oui, donc la fleur d'oranger qui pour moi est vraiment synonyme de détente et de bien-être.
La deuxième senteur, vous l'avez apportée aussi, elle est sur vous.
Oui, c'est...
Alors évidemment, je l'ai un peu moins sentie, forcément. Non, mais je tiens à le préciser quand même. Le parfum vétiver de Guerlain.
Oui, en effet, c'est un parfum qui me ressemble bien, que j'aime beaucoup porter. En fait, qui pour moi est synonyme de cet écrin de verdure, de bien-être, dans lequel je me sens bien, qui me rappelle énormément de choses, qui fait partie de cette bulle dans laquelle je me sens à l'aise.
Vous m'avez parlé d'un écrin de verdure qui se trouve au Havre aussi. Je sais bien que ce n'est pas celui-ci dont vous vouliez parler à l'instant, mais quand même, vous m'avez dit, en parlant du Square Saint-Roch, allez-y.
Oui, c'est mon petit Central Park au Havre, en fait.
Voilà, parce que vous voyez la tour de l'Hôtel de Ville
derrière.
Voilà,
je vois la tour de l'Hôtel de Ville.
Quand on s'y promène, effectivement, voilà. On peut voir ça.
Et donc, pour moi, c'est mon petit Central Park à moi, au Havre. Donc oui, c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement.
Revenons quelques instants à ce que vous évoquiez juste avant. Ce sont ces senteurs que vous évoque ce parfum dont nous parlions. Un sous-bois, une allée cavalière, mais aussi l'odeur du cuir.
Oui, ce sont des odeurs qui sont assez racées pour le cuir, en effet, qui sont synonymes de force, qui sont synonymes de rigueur, de... oui, le vétiver représente toutes ces choses qui me tiennent à cœur, le côté végétal, le côté sous-bois, le côté énergie, c'est quelque chose qui me correspond bien.
Merci beaucoup Steven Tougar.
Mais je vous en prie,
d'avoir
merci à vous.
Été notre invité aujourd'hui dans
merci
Portrait.
Clarisse.
Merci d'avoir évoqué tous ces beaux moments, merci d'avoir partagé avec nous votre univers.
Merci à vous.
C'était Portrait, une émission proposée et animée par Claire-Lise Chaubelet. Chances are, 'cause I wear a silly grin.